Soit, puisque le pape le lui imposait, Philippe allait régler ses différends. Et avec l'Angleterre d'abord, en remettant le jeune Édouard dans ses obligations de vassal et en lui enjoignant de livrer sans tarder ce félon de Robert d'Artois auquel il donnait asile. Les fausses grandes âmes, lorsqu'elles sont blessées, se cherchent ainsi de misérables revanches. Quand l'ordre d'extradition, transmis par le sénéchal de Guyenne, était parvenu à Londres, Robert avait déjà pris pied solidement à la cour d'Angleterre. Sa force, ses manières, sa faconde lui avaient attiré de nombreuses amitiés. Le vieux Torscol chantait ses louanges. Le jeune roi avait grand besoin d'un homme d'expérience qui connût bien les affaires de France. Or, qui donc en était mieux instruit que le comte d'Artois? Parce qu'il pouvait être utile, ses malheurs inspiraient la compassion. « Sire, mon cousin, avait-il dit à Édouard III, si vous jugez que ma présence en votre royaume vous doive créer ou péril ou nuisance, livrez-moi à la haine de Philippe le roi mal trouvé. Je n'aurai point à me plaindre de vous qui m'avez fait si grande hospitalité. Je n'aurai à blâmer que moi-même, pour ce que j'ai, contre le bon droit, donné le trône à ce méchant Philippe, au lieu de le faire octroyer à vous-même, que je ne connaissais pas assez. » Et cela était prononcé, la main largement étalée sur le cœur et le buste ployé. Édouard III avait répondu calmement, « Mon cousin, vous êtes mon hôte, et vous m'êtes fort précieux par vos conseils. En vous livrant au roi de France, je serai l'ennemi de mon honneur autant que de mon intérêt. Et puis vous êtes accueilli au royaume d'Angleterre et non pas en duché de Guyenne. Suzeraineté de France ici ne vaut pas. » La demande de Philippe VI fut laissée sans réponse. Et, jour après jour, Robert put poursuivre son œuvre de persuasion. Il versait le poison de la tentation dans l'oreille d'Édouard, ou celle de ses conseillers. Il entrait en disant « Je salue le vrai roi de France !» Il ne manquait pas une occasion de démontrer que la loi salique n'avait été qu'une invention de circonstance, et que les droits d'Édouard à la couronne de Hugues Capet étaient les mieux fondés. À la seconde sommation qui lui fut faite de livrer Robert, Édouard III ne répondit autrement qu'en accordant à l'exilé la jouissance de 3 châteaux et 1200 marques de pension. C'était le temps d'ailleurs où Édouard témoignait sa gratitude à tous ceux qui l'avaient bien servi, où il nommait son ami William Montagu comte de Salisbury et distribuait titres et rentes au jeune lord qu'il avait aidé dans l'affaire de Nottingham. Une troisième fois, Philippe VI envoya son grand maître des arbalétriers signifier au sénéchal de Guyenne, pour le roi d'Angleterre, qu'on eut à rendre Robert d'Artois, ennemi mortel du royaume de France, faute de quoi, à 15 échus, le duché serait séquestré. « J'attendais bien cela !» s'écria Robert. « Ce grand niais de Philippe n'a d'autre idée que de répéter ce que j'inventais, naguère, cher sire Édouard, contre votre père. Donnez un ordre qui offense le droit, puis séquestrer pour défaut d'exécution de cet ordre, et par le séquestre, imposer ou humiliation ou la guerre. Ah, seulement aujourd'hui, l'Angleterre a un roi qui véritablement règne, et la France n'a plus Robert d'Artois. » Il n'ajoutait pas, et naguère il y avait en France un exilé qui jouait tout juste le rôle que je joue ici, et c'était Mortimer. Robert avait réussi au-delà de ses espérances. Il devenait la cause même du conflit qu'il rêvait de voir éclater. Sa personne revêtait une importance capitale et pour aborder ce conflit, il proposait sa doctrine, faire revendiquer par le roi d'Angleterre la couronne de France. Voilà pourquoi, ce jour de septembre 1337, sur les degrés de Westminster Hall, Robert d'Artois, manche déployée et pareil à un oiseau d'orage, devant les nervures du grand vitrail, s'adressait sur la demande du roi au Parlement britannique. Entraîné par 30 ans de procédure, il parlait sans documents ni notes. Ceux des délégués qui n'entendaient pas parfaitement le français prenaient de leurs voisins la traduction de certains passages. À mesure que le comte d'Artois développait son discours, les silences se faisaient plus denses dans l'assemblée, ou bien les murmures plus intenses, quand quelques révélations frappaient les esprits. Que de choses surprenantes! Deux peuples vivent, séparés seulement par un étroit bras de mer. Les princes des deux cours se marient entre eux, les barons d'ici ont des terres là-bas, les marchands circulent d'une nation à l'autre, et l'on ne sait rien au fond de ce qui se passe chez le voisin. Ainsi la règle « France ne peut à femme être remise, ni par femme être transmise » n'était nullement tirée des anciennes coutumes, C'était juste trouvaille d'humeur lancée par un vieux rabâcheur de connétables lors de la succession 20 ans plus tôt d'un roi assassiné. Oui, Louis Xe, le hutin, avait été assassiné. Robert d'Artois le proclamait et nommait sa meurtrière. « Je la connaissais bien, elle était ma tante. On m'a volé mon héritage !» L'histoire des crimes commis par les princes français, le récit des scandales de la cour capétienne, Robert s'en servait pour épicer son discours. Et les députés au Parlement d'Angleterre en frémissaient d'indignation et d'effroi, comme s'ils tenaient pour rien les horreurs accomplies sur leur propre sol et par leur propre prince. Et Robert poursuivait sa démonstration, défendant les thèses exactement inverses à celles qu'il avait soutenues naguère en faveur de Philippe de Valois, et avec une égale conviction. Donc, à la mort du roi Charles IV, dernier fils de Philippe le Bel, et si même on avait voulu tenir compte de la répugnance des barons français à voir femme régner, la couronne de France devait, en toute équité, revenir à travers la reine Isabelle au seul mâle de la lignée directe. L'immense manteau rouge pivota devant les yeux des Anglais tout saisis. Robert s'était tourné vers le roi. D'un coup, il se laissa tomber le genou sur la pierre. « Revenir à vous, noble sire Édouard, roi d'Angleterre, en qui je reconnais et salue le véritable roi de France !» On n'avait pas ressenti émotion plus intense depuis le mariage d'York. On annonçait aux Anglais que leur souverain pouvait prétendre à un royaume plus grand du double, plus riche du triple. C'était comme si la fortune de chacun, la dignité de chacun, s'en trouvait augmentée d'autant. Mais Robert savait qu'il ne faut pas laisser s'épuiser l'enthousiasme des foules. Déjà, il se relevait et rappelait qu'au moment de la succession de Charles IV, le roi Édouard avait envoyé pour faire valoir ses droits deux hauts et respectés évêques, dont Mgr Adam Orleton, qui aurait pu en témoigner de vive voix s'il n'eût été présentement en Avignon, à ce même propos et pour obtenir l'appui du pape. Et son propre rôle à lui, Robert, dans la désignation de Philippe de Valois, devait-il le passer sous silence? Rien n'avait mieux servi le géant tout au long de sa vie que la fausse franchise. Ce jour-là, il en usa encore. Qui donc avait refusé d'entendre les docteurs anglais? Qui avait repoussé leurs prétentions? Qui les avait empêchés de faire valoir leurs raisons devant les barons de France? Robert, de ses deux énormes poings, se frappa la poitrine. « Moi, mes nobles lords et squires, moi qui suis devant vous, qui croyant agir pour le bien et la paix, ai choisi l'injuste plutôt que le juste, et qui n'ai pas assez expié cette faute par tous les malheurs qui me sont advenus !» Sa voix répercutée par les charpentes roulait jusqu'au bout du hall. Pouvait-il apporter à sa thèse un argument plus probant? Il s'accusait d'avoir fait élire Philippe VI contre le bon droit. Il plaidait coupable, mais présentait sa défense. Philippe de Valois, avant d'être roi, lui avait promis que toute chose serait remise en ordre équitable, qu'une paix définitive serait établie, laissant au roi d'Angleterre les jouissances de toute la Guyenne, qu'en Flandre des libertés seraient consenties qui rendraient prospérité au commerce, et qu'à lui-même, l'Artois serait restitué. Donc, c'était dans un but de conciliation et pour le bonheur général que Robert avait agi de la sorte. Mais il était bien prouvé que l'on ne doit se fonder que sur le droit et non sur les fallacieuses promesses des hommes, puisqu'au jour présent l'héritier d'Artois était un proscrit, la Flandre affamée et la Guyenne menacée de séquestre. Alors, si l'on devait aller à la guerre, que ce ne soit plus pour vaines querelles dommage-lige ou non-lige, de seigneurie réservée ou de définition des termes de vassalité, que ce soit pour le vrai, le grand, l'unique motif, la possession de la couronne de France. Et du jour où le roi d'Angleterre l'aurait sainte, alors il n'y aurait plus ni en Guyenne ni en Flandre de motif à la discorde. Les alliés ne manqueraient pas en Europe, princes et peuples tous ensemble. Et si pour ce faire, pour servir cette grande aventure qui allait changer le sort des nations, le noble sire Édouard avait besoin de sang, Robert d'Artois, tendant les bras hors de ses manches de velours, au roi, au lord, aux communes, à l'Angleterre, offrait le sien.